qui avaient répondu favorablement à l'appel du Seigneur pour former son assemblée, sentez-vous fraternellement accueillis. D'emblée, nous allons dire ce texte ensemble qui est sur votre feuille de culte. Nous sommes le peuple auquel Dieu dit « Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins accidentés, je romprai les portes de bronze et je briserai les verrous de fer, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies. » Amen. Et maintenant, vous avez aussi des paroles sur votre feuille de culte qui s'intitule « Chant sans le recueil » pour laisser un peu un esprit spontané. Myriam, ce sont des paroles d'un chant très connu, mais Myriam va jouer un peu la mélodie et puis après, nous essaierons de le chanter. En général, c'est un canon, mais on ne va pas le chanter en canon, sauf si certains arrivent à se dire « je vais le faire quand même ». Alors, le texte, c'est que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qu'il se réjouisse de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai, je célébrerai son nom tant que je vivrai. Myriam. Juste une fois. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qu'il se réjouisse de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célèbre. Voici que nous entrons dans la louange. Et pour le premier paragraphe, au geste, je vais vous demander de le faire d'une façon antiphonée, c'est-à-dire répéter juste les formules qui sont dites. Seigneur, nous te remercions pour ce jour et pour chaque souffle que tu nous donnes. Et pour chaque souffle que tu nous donnes. Tu es là, au cœur de nos vies et dans tout ce que nous traversons. Tu es là, au cœur de nos vies et dans tout ce que nous traversons. Merci pour les moments simples des jours. Pour le pain qui se partage, pour les rires et les sourires. Pour les rencontres et les gestes d'amour, dans tout cela, nous voyons ta bonté. Pour les rencontres et les gestes d'amour, dans tout cela, nous voyons ta bonté. Et maintenant, je continue de façon solitaire, mais avec vous. Que nos cœurs s'ouvrent à ta présence, ici et maintenant, dans cette assemblée où chacun apporte ses doutes et ses espoirs, nous venons tels que nous sommes, avec nos vies ordinaires, et nous te louons, car tu es fidèle à chaque instant. Reçois notre reconnaissance, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies, et aide-nous à être des témoins de ta grâce dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos lieux de travail, et Amen. Maintenant, je vous invite à vous lever pour chanter cette fois dans le recueil le 4104, page 564, mais attention, les strophes 5, 6 et 8. 5, 6, 8. Voici maintenant la prière de conversion, dont je vous inviterai à un moment donné d'en lire ensemble un extrait. Seigneur, nous venons devant toi avec nos cœurs ouverts, conscients de nos erreurs, de nos manquements, des moments où nous avons choisi de nous éloigner de toi et des autres. Nous te demandons de nous aider à revenir à l'essentiel, à retrouver ce chemin de vie que tu traces pour nous. Et ensemble, nous pouvons continuer avec ce qui est indiqué sur votre feuille. Nous reconnaissons nos faiblesses, nos impatiences et toutes ces fois où nous avons laissé la peur, la colère ou l'égoïsme prendre le dessus dans nos paroles et aussi nos actes. Mais nous savons que tu es là, toujours prêt à nous accueillir, à nous guider vers une nouvelle manière de vivre, plus vraie, plus juste. Aide-nous à changer, Seigneur, à tourner nos regards vers toi, à réapprendre à aimer, à pardonner et à témoigner de ta présence autour de nous, chaque jour un peu plus. Donne-nous le courage de faire un pas de plus vers toi, d'abandonner ce qui nous pèse et qui nous freine, pour que nos vies reflètent ta grâce et ton amour. Nous te remettons nos doutes, nous te remettons nos erreurs et nos peurs, et nous te demandons de nous transformer afin que nous puissions marcher avec confiance dans la certitude de ton pardon infini. Amen. Tout en restant assis, maintenant nous prenons la strophe 1, du cantique 4106 que vous trouvez à la page 568. 4106, strophe 1, page 568. Ces mots, mais à le faire en vous relevant. C'est l'annonce du pardon. Dieu connaît nos faiblesses, il connaît nos hésitations, il connaît nos erreurs, il voit au-delà de nos manquements, et c'est avec amour qu'il nous accueille, tel un être humain qui ouvre ses bras. En ce moment même, il vous dit que vous êtes pardonnez, que nous sommes pardonnés, non pas parce que nous le méritons, mais parce que l'amour de Dieu est plus grand que nos fautes. Il nous appelle à repartir, à marcher à nouveau avec confiance, sachant que rien ne peut nous séparer de son amour. Recevez, frères et sœurs, ce pardon comme une nouvelle chance, comme une nouvelle alliance, et laissez-le éclairer tous vos pas. Et maintenant, nous chantons toujours debout la strophe 2 du même chant.
Entends le nom de Jésus-Christ et
Exceptionnellement, nous allons nous rasseoir pour entendre l'expression de la volonté de Dieu. Dieu nous appelle à vivre en harmonie, à bâtir nos vies sur des fondations solides de justice et de paix. Il ne demande pas des actes extraordinaires, mais des gestes pleins de vérité. Il veut que nous aimions nos voisins, que nous osions tendre la main vers ceux et celles qui sont dans le besoin, que nous soyons aussi des porteurs et des porteuses de sens dans nos paroles comme dans nos actions. Il nous invite à marcher avec humilité, à rester fidèles à ce que nous croyons, à pardonner à notre tour, à encourager, à partager ce que nous avons reçu, que sa volonté soit notre guide, non pas comme un poids sur nos épaules, mais comme un chemin vivant où chaque pas nous rapproche un peu plus de lui et des autres. Et tout en restant ainsi encore, nous prenons maintenant les strophes 3 et 4 du même chant, page 568.
Je vous invite à la prière. Seigneur, nous venons devant toi pour écouter ta parole. Ouvre nos cœurs et nos esprits pour que nous puissions la recevoir en vérité. Que ton esprit nous guide dans la lecture des Écritures et dans l'écoute de la prédication. Aide-nous à entendre ta voix, à comprendre ce que tu veux nous dire aujourd'hui et à laisser ta parole nous renouveler, que ta vérité vienne éclaircir nos chemins. Amen. Et nous lisons dans la lettre de Jacques, au chapitre 2, du verset 1er au verset 13. Mes frères, ne mêlez pas de partialité à la foi de notre Seigneur glorieux Jésus-Christ. Supposons en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et des habits resplendissants, et qu'il y entre aussi un pauvre avec des habits sales. Si, plein d'attention pour celui qui porte les habits resplendissants, vous lui dites « Toi, assieds-toi à la place d'honneur », tandis que vous dites au pauvre « Toi, tiens-toi debout là-bas ou bien assieds-toi au bas de mon marchepied », Ne faites-vous pas en vous-même une discrimination et n'êtes-vous pas des juges au raisonnement mauvais ? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres du point de vue du monde pour qu'ils soient riches de foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime ? Et vous, vous avez déshonoré le pauvre. Pourtant, ce sont bien les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux, n'est-ce pas ? N'est-ce pas eux qui calomnient le beau nom qui est invoqué sur vous ? Sans doute, si vous accomplissez la voie royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous montrez de la partialité, vous commettez un péché et vous êtes convaincu de transgression par la loi. En effet, quiconque observe toute la loi mais trébuche sur un seul point devient entièrement coupable. Car celui qui a dit « ne commet pas d'adultère » a dit aussi « ne commet pas de meurtre ». Si donc tu ne commets pas d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi de liberté. Car le jugement est sans compassion pour qui ne montre pas de compassion. La compassion triomphe du jugement.
D'abord, un préambule adressé à ceux et celles qui ont participé jeudi soir dernier à l'atelier de prédication. J'avais choisi l'évangile de ce jour dans la continuation de nos séances dont le fil rouge est l'évangile de Marc. Et je trouvais que c'était une bonne idée de convoquer ce même texte pour ce dimanche. Mais à la réflexion, je me suis dit que ce n'était pas une bonne idée. Grâce d'ailleurs à la remarque pertinente d'un des participants à ce groupe. Lors de cette première séance, chaque personne a été invitée à exprimer librement les premières perceptions qui lui venaient à l'esprit, à les partager, avant que nous puissions entrer, lors d'une prochaine séance, dans l'analyse plus fine, dans l'objectif de faire une prédication. Et ce jeudi soir-là, autour du texte de l'évangile de Marc, qui donc n'a pas été lu aujourd'hui, il y a eu une profusion. Si bien que je me suis dit que je n'allais pas du haut de cette chaire risquer de briser un bel élan. Voilà la raison donc pour laquelle j'ai choisi un autre texte proposé aussi pour ce jour, à savoir ce passage de la lettre de Jacques. Mais face à ce texte, j'ai décidé aussi aujourd'hui d'employer un mode plus académique, on va dire, qui ne correspond pas exactement à ma pratique usuelle des textes en prédication. Pourquoi ? Parce que, quand je me suis simplement retrouvé devant ma propre explication de ce texte, je me suis dit que celle-ci permettait potentiellement à chacun, sans que j'en rajoute, de porter un regard sur la société dans laquelle il vit, si tant est qu'il admette que ce texte est majeur dans la compréhension de la morale chrétienne. Fin du préambule. Ah là là, la lettre de Jacques. Une lettre circulaire, très riche en enseignements. Considérée comme un monument de la sagesse judéo-chrétienne. Le passage proposé pour aujourd'hui est centré, vous l'avez entendu, sur la question du favoritisme et sur l'importance de traiter chaque personne de façon égalitaire, sans faire de distinction basée sur l'apparat, la richesse, le statut social. Et donc je vais proposer un aperçu des conditions d'élaboration de ce texte. Et ensuite, il y aura quelques remarques de type analytique. Alors le contexte historique, la lettre de Jacques est souvent attribuée à Jacques, qui est le frère de Jésus, qui était un leader de l'Église à Jérusalem. Elle pourrait, dans ce cas, avoir été écrite et premièrement diffusée dans les années 50 ou 60 de notre ère, donc relativement tôt dans l'histoire du mouvement chrétien. Mouvement chrétien est une formule un peu inappropriée, qu'on appellera plus justement pour cette époque reculée, un mouvement de croyants juifs, mais qui faisait de Jésus leur Messie. Bien sûr, d'autres datations pour cette lettre sont arrivées elles-mêmes très tôt dans l'histoire du christianisme, qui renvoient cette lettre à un ou deux siècles plus tard. Mais je me suis toujours demandé si décaler cette date pour la lettre de Jacques n'était pas aussi une façon de réduire la radicalité de son propos. Donc, je ne me prononce pas. Et jusqu'à Luther, bien sûr, Luther, qui considérait, vous le savez, cette lettre, cette épître, comme une épître de paille, c'est sa propre expression. Parce que selon lui, elle faisait l'apologie des œuvres. Disons-le, et je m'excuse d'avance pour nos amis luthériens présents dans l'Assemblée, Luther a commis une totale erreur d'interprétation vis-à-vis de ce texte. C'est vrai que Luther a très tôt trouvé parmi les plus riches les meilleurs de ses protecteurs. C'est toujours bien quand on est plutôt calviniste de toujours rester dans la génération d'après. En tous les cas, à l'époque du contexte officiel de la lettre et même par la suite, les communautés des croyants au Christ se constituaient principalement autour des synagogues. Et effectivement, il y avait une grande diversité sociale dans ces groupes-là, et c'était, toute la richesse, dans un certain sens, du nouveau mouvement, de mêler toutes les classes sociales. Mais les tensions liées aux inégalités sociales étaient bien réelles, et cette lettre en témoigne, notamment entre les riches et les pauvres. Effectivement, dans la société romaine et juive aussi de l'époque, les classes sociales étaient très marquées. Et il était, on va dire, naturel de favoriser les riches, surtout dans des contextes religieux. Jacques, dans cette lettre, réagit donc à cette réalité sociale, à ce naturel, en appelant à un comportement que j'appellerais finalement plutôt contre-culturel. Jacques s'adresse principalement à des Juifs ayant fait le choix de reconnaître en Jésus le Messie attendu. Des croyants donc dispersés un peu partout, comme les Juifs, et ce depuis très longtemps pour les Juifs. C'est pour ça qu'on considère qu'il s'agit bien d'une lettre circulaire et non pas comme les lettres de Paul, d'abord adressées à une église en particulier. Le texte semble avoir pour but de rappeler à ces communautés éparpillées l'importance donc de l'égalité et de la justice en tant que valeur centrale de ce nouvel élan messianique juif. Maintenant, on va entrer dans l'analyse. Et vous avez donc sur votre feuille le texte avec les versets. Le favoritisme est effectivement condamné. Jacques commence par une mise en garde très directe contre le favoritisme. Il prend l'exemple concret que vous avez tous entendu. Si lors d'une assemblée, une personne riche est mieux accueillie qu'une personne pauvre, cela traduit une mauvaise compréhension de tout, des enseignements profonds, à la fois de l'essence de la loi juive et aussi des paroles de Jésus. Jacques insiste sur ce point très simple, faire des distinctions entre les gens en fonction de leur statut social est incompatible avec le nouvel élan messianique. Ce rejet du favoritisme est profondément radical dans le contexte de l'époque. car il contredit la hiérarchie sociale romaine très rigide. Jacques serait-il un précurseur de la volonté de justice sociale? Je ne sais pas. Son discours reflète une conception du royaume de Dieu où les valeurs du monde, vous le savez, sont inversées. Les pauvres, les infirmes, les marginalisés sont souvent mis en avant dans les enseignements de Jésus. Nous, quand nous entendons parfois cela certains dimanches ou avant Noël, dans les temps qui précèdent Noël, avec tous ces textes autour les textes d'Ésaïe, etc., qui rappellent cette prédilection de Dieu pour les plus petits, eh bien, on a tendance à écouter, mais finalement, cela n'impacte pas trop. Jacques, lui, en fait, ne fait pas de liturgie. Il ne suggère pas. Il pose cela comme une norme indiscutable. Et j'aurais pas aimé être en face de Jacques pour commencer à discutailler avec lui. Versets 5 à 7. Dieu a effectivement choisi les pauvres. Dans ces versets, Jacques rappelle que Dieu choisit les pauvres. Ça a l'air un peu simple à dire comme ça, mais c'est tellement répété dans les évangiles que je suis obligé moi-même de le répéter. Et attention, il ne s'agit pas ici des pauvres en esprit, comme on dit, ou de cœur, ou un autre euphémisme, mais des pauvres réels, comme quand l'évangile de Luc dit « heureux les pauvres », et pas les pauvres en esprit ou quoi que ce soit, « heureux les pauvres », et ajoute, au grand désespoir de tous les prédicateurs de ce texte, et ajoute « malheur aux riches ». Il les a choisis, ces pauvres, pour hériter du règne de Dieu. On peut se poser la question de savoir à quelle catégorie Jacques s'adresse-t-il dans toutes ces églises éparpillées dans sa lettre circulaire. S'adresse-t-il aux riches, aux pauvres, aux classes moyennes? Ah oui, peut-être que nous, on pensait en tant que classe moyenne esquiver le propos de Jacques, je ne sais pas. Bon, sans doute, il s'adressait à tout le monde, évidemment. Vous le savez, l'église institutionnelle, face à ce type d'injonction, a très tôt fabriqué un antidote, appelé l'idéal de pauvreté, une pauvreté spirituelle, une modestie, un minimalisme de l'apparence. Peut-être, finalement, s'agissait-il d'un rusé tour de passe-passe pour ne pas se confronter à la brutalité sociale considérée inconsciemment par tout le monde comme une norme intangible, voire une volonté intangible de Dieu lui-même. Il ne s'agit pas de cela chez Jacques. Jacques n'idéalise pas la pauvreté du tout. Il critique les riches qui, littéralement, oppriment et traînent les croyants devant les tribunaux. C'est simple, direct, basique. Il met en lumière le fait que les riches, par leur pouvoir, abusent souvent de leur position, ce qui va à l'encontre de l'éthique en situation de ces nouveaux croyants qui se concentrent ou qui sont appelés à se concentrer sur le cœur de la loi et ne se perdent pas en conjectures sur tout le reste. Encore une fois, même si on peut voir dans ce récit apparaître une parabole avec cette histoire de l'homme riche et du pauvre en haillon qui arrive, c'est-à-dire les idéaux types du riche et du pauvre, qui sont traités différemment dans une assemblée, cette histoire, en fait, n'est pas très riche en interprétations potentiellement différentes, au gré de l'humeur, du temps et de notre propre positionnement social. Ce texte est et demeure au premier degré. Ce passage est explicitement une critique des structures de pouvoir qui exploitent les pauvres. Encore une fois, ce n'est pas seulement une critique morale, comme on a tendance toujours à le pousser avec cette histoire de pauvre de cœur, d'idéal de pauvreté, etc., etc. Ce n'est pas une critique morale, mais une réflexion sur les systèmes économiques et politiques qui maintiennent ces inégalités que tout le monde, à tort, trouve naturelles. Jacques invite explicitement les chrétiens à questionner non seulement leurs attitudes personnelles, mais aussi les systèmes sociaux injustes. Versets 8 à 11, Jacques emploie deux expressions, la loi royale et la loi de liberté. Il est le seul à faire ça. La loi royale, qui est l'amour du prochain. Il précise que cette loi d'amour, aussi bien juive que reprise par Jésus, transcende toute autre règle et que celui qui transgresse cette loi est coupable vis-à-vis de toute la loi. Ça a pu vous choquer, ça, à l'écoute. C'est radical. Même Jésus n'est pas allé jusque-là et, en tous les cas, de cette façon-là, sauf quand il évoque, dans la partie dite apocalyptique du chapitre 25 de l'évangile de Matthieu, cette parole du Fils de l'homme, appelé roi, et le roi leur répondra, je vous le dis, amen, toutes les fois que vous avez fait des choses à l'un de ces plus petits de mes frères, donc en manquant d'amour pour les pauvres, c'est bien ça dont il s'agit, c'est à moi que vous les avez faites. Cette insistance sur l'amour comme loi suprême, évoquée, vous le savez, très souvent dans les textes de sagesse juive et aussi chez certains prophètes, fait donc aussi écho aux enseignements de Jésus, qui, vous le savez, résume, et d'une façon très effrontée, on a tendance à l'oublier, résume toute la loi par l'amour de Dieu et celui du prochain. La loi royale peut être comprise comme une réinterprétation des commandements juifs à la lumière du message de Jésus. Jacques semble ici insister sur la centralité de la miséricorde, c'est-à-dire de l'absence de non-pitié, c'est-à-dire ne pas être impitoyable, c'est le mot grec, centralité de la miséricorde et de l'amour qui doivent guider les croyants dans toutes leurs actions. Le fait que Jacques lie cette loi royale à la loi de liberté, verset 12, montre peut-être qu'il perçoit la foi chrétienne comme un chemin de libération, non pas dans un sens évaporé ou de notre côté légaliste, mais dans un sens d'émancipation de toute forme de domination, y compris celle des jugements sociaux qui s'exercent sur nous. Verset 13. La miséricorde triomphe du jugement, et j'ai bien aimé l'attitude qu'a eue Nicolas pour affirmer cette phrase à la fin du texte. Jacques conclut ce passage en soulignant que ceux qui ne montrent pas de miséricorde seront jugés sans miséricorde. Cette phrase est particulièrement puissante et encore une fois, on ne peut plus radicale. Il est impossible de tergiverser, sauf à renoncer à faire partie de la nouvelle alliance du Christ. Cela rappelle l'histoire de l'homme riche qui s'en va tout triste. Mais c'est une histoire. Et Jacques, lui, ne raconte pas d'histoire. Il fabrique de la loi, de l'éthique, de la morale. Seule la compassion ou la miséricorde, le fait de ne pas être sans pitié, va triompher du jugement. Jacques écrit dans une période qui a duré très longtemps, où dans les milieux juifs et chrétiens, on croyait au jugement final. La compassion évoquée par Jacques supprime ce jugement. Mais la question aujourd'hui, c'est que plus grand monde ne croit au jugement. C'est-à-dire à cette récapitulation survenant à la fin du temps, non pas à la fin de notre vie individuelle, mais à la fin du temps. L'effacement progressif de cette croyance a transformé en grande partie cette radicalité chrétienne du premier temps en ce qu'on pourrait appeler une moraline du quotidien et a déplacé le cœur de la morale chrétienne axée primitivement contre l'injustice, y compris l'injustice qu'a subie Jésus, évidemment. On le voit peu, mais toute l'histoire est centrée sur la croix. Et la croix, qu'est-ce que c'est ? Une injustice radicale. A déplacé cette morale chrétienne qui avait cet axe primitif, vers d'autres territoires qui, eux, ne sont jamais évoqués dans les évangiles, quelquefois dans certaines diatribes de Paul, mais ce ne sont pas les évangiles. Et ces territoires sont, par exemple, la morale sexuelle, ou la question d'interdire de décider de sa fin de vie, ou de savoir à qui appartient son propre corps, ou de qui on a le droit d'aimer, des nouveaux territoires, donc de la morale chrétienne, officielle, Tous les théologiens qui tentaient de remettre au cœur cette question de l'injustice sociale, aujourd'hui, globalement, sont morts. Qui parle encore aujourd'hui de la théologie de la libération ? Je suis certain que parmi vous, personne n'en a entendu parler parmi les plus jeunes. Pourtant, à une certaine époque, on en parlait énormément. Les chrétiens aujourd'hui préfèrent manifester soi-disant pour tous ou critiquer des œuvres d'art. Et ces protestataires, en général, appartiennent à une certaine classe sociale. Seul un pape, bien esselé, tente de faire entendre sa petite voix sur le sujet, sans grand succès. Alors, on va conclure. Le texte de Jacques 2, 1 à 13 est très original, en fait. Dans le sens très clair, dans ce texte, du lien consubstantiel et irrévocable entre le commandement d'amour et la justice sociale. On peut souvent, de façon un peu hypocrite, faire dire beaucoup de choses des textes des évangiles, jusqu'à promouvoir du côté de certaines sectes évangéliques protestantes un évangile soi-disant de la richesse et de l'opulence, n'importe quoi, ou à plus couramment insister sur la pauvreté de cœur ou sur le conseil aux riches de ne pas être trop démonstratif. Mais ce passage et toute la lettre de Jacques peut être vu comme un manifeste en faveur de la justice sociale. Mais sans amour, rappelle-t-il, et encore de façon radicale, et en écho avec l'apôtre Paul, qu'on lui oppose souvent et à tort, sans amour, ce n'est rien. Et la loi de liberté ne peut pas s'appliquer. Voilà donc pour cette explication. À vous maintenant de prendre, ou de laisser, ou de tenter de trouver une voie intermédiaire. Mais avant de pencher d'un côté ou de l'autre, n'hésitez pas à lire l'intégralité de cette lettre de petite taille, 5 chapitres, qu'est-ce que c'est au fond, au risque d'y trouver des passages encore plus radicaux. Amen. Entendre tout simplement en restant assis cette confession de foi élaborée à partir d'un texte beaucoup plus ancien. Je crois en Dieu, le Père tout-puissant créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus le Christ, son Fils, unique parmi les fils et filles de notre Seigneur. Il est raconté qu'il a été conçu d'un souffle sacré et qu'il est né d'une jeune fille appelée Marie. Il a grandi, il a discuté, il a enseigné, il a soigné et même guéri, il a marché, il a exulté, il a pleuré, il a pardonné, il a souffert. Sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort et puis il a été enseveli. Il a été descendu dans les lieux inférieurs et le troisième jour, il est raconté et proclamé qu'il a été relevé d'entre les morts. On l'a vu manger du poisson avec ses disciples. On l'a vu monter au ciel. Il est revenu dans nos cœurs Il reviendra dans l'accomplissement du temps. Je crois en l'Esprit Saint, je crois l'Église universelle, je crois en la communion des saints, je crois en la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Et en nous relevant, nous pouvons chanter le 4108, strophe 1, 2 et 3, page 372. 572, pardon. 572, 4108. Cette prière d'intercession a été composée à partir d'une prière rédigée par le Comité palestinien de la Journée mondiale de prière. Nous prions pour les femmes qui, en ce moment même, perdent des enfants et des proches. Dieu, accorde-leur le courage de surmonter l'adversité sans nom. Nous prions pour que ce courage paradoxal soit une lueur d'espoir au milieu de toute cette détresse. En ce temps de guerre, nous prions pour la guérison des cœurs et le rétablissement de la paix. Que la compassion et l'intelligence l'emportent sur la haine, et que la souffrance de tous ceux et celles qui sont touchés par la guerre soit au moins atténuée. Dieu, donne-leur la force, le réconfort, l'espoir d'un avenir plus heureux, plus juste. Nous prions pour toutes les familles qui déplorent la mort et les blessures de leurs proches, pour les personnes enlevées, pour les disparus, et tous ceux et celles qui sont encore ensevelis sous les décombres. Dieu de Jésus-Christ, nous prions pour que toutes les guerres cessent, en particulier dans ce lieu que tu as appelé ta patrie. Tu es le Dieu sauveur qui nous a enseigné le véritable sens de la paix. Alors Seigneur, guide-nous et donne-nous la force de continuer à espérer. Ensemble, nous pouvons dire et à haute voix la prière que Jésus a transmise à ses disciples. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Ce pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été donné pour nous. Et cette coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été répandu pour nous. Thank you.